parole et par son esprit, vous transmet les sincères et chaleureuses salutations de votre église sœur à Angers. Pour ceux qui s'en souviennent, on a eu la joie de côtoyer les Pannes, la famille Pannes, qui ont fréquenté aussi notre assemblée là-bas à Angers. Et voilà, on a pu partager des bons moments ensemble. On était hier avec les jeunes du réseau PIM, l'église de Nation qui recevait aussi l'opération à la rencontre de nos quartiers. D'ailleurs, c'est vous la prochaine fois, si je me souviens bien, le 17 février de mémoire. C'était une belle opération, peut-être qu'on dira un autre hébergement. On a pu s'encourager avec quelques jeunes aussi qui étaient là, qui sont présents ce matin, qui étaient là hier soir. Joël m'a demandé si tu veux pas jouer avec moi à la guitare. Je dis pourquoi faire. Je dis bon, d'accord, si ça peut aider, c'est super. Merci Nicolas et merci Timothée pour votre service. On peut y aller. Ce que je vous propose ce matin, c'est d'abord ça, avec une question. Quel est le point commun entre ces deux hommes? Non, pas la différence. Quel est le point commun entre ces deux hommes? Alors, présidence, oui. Des fois, oui, c'est Nicolas Sarkozy et M. Hollande. Et parfois, on me dit, il y en a un à droite, il y en a un à gauche. Oui, c'est vrai, certes. Effectivement, ils sont bien placés. Le point commun entre ces deux hommes, c'est que ce sont deux chefs d'État qui ont changé de femme au cours de leur mandat. Il y en a un qui a divorcé. Il y en a un qui a divorcé et qui s'est remarié très tôt après le début de son mandat. Et puis pour l'autre, c'était séparation puis cohabitation sans mariage, parce que pour lui, il n'y a pas de mariage dans la vie. Et le texte que je vous propose aujourd'hui parle de cette question délicate du divorce. On a fait un parcours dans l'évangile de Marc, dans notre église locale à Angers. Et on est passé il y a deux semaines par Marc 10 et on a traité du coup de ce que Jésus disait à ce propos, en Marc 10. Alors je vous invite à prendre ce passage, Marc chapitre 10, verset 1. Non, il faut bien que tu cliques, à chaque fois que je fais ça, tu cliques, s'il te plaît. Ouais, très bien. Juste quand je fais ça. Marc 10, verset 1 à 9. Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. La foule se rassembla de nouveau près de lui et, conformément à son habitude, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et, pour lui tendre un piège, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de divorcer de sa femme. Il leur répondit : Que vous a prescrit Moïse ? Moïse, dirent-il, vous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme. Jésus leur répondit : C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a donné cette règle, mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. L'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et ce que je vous propose ce matin, c'est bon, ça marche maintenant. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de voir ceci. Quatre points. La question de piège d'abord des pharisiens. Ensuite, la loi du divorce dans l'Ancien Testament. Le plan de Dieu concernant le mariage et Christ et le mariage, pour retenir une idée principale, désolé pour la mise en page, Christ, l'époux bien-aimé, est la clé d'un mariage épanoui. On commence avec la question piège des pharisiens, versets 1 à 2. Jésus est en Galilée au nord du pays, nous dit le texte. Regardez, Jésus partit de là, il se déplace, le là c'est le nord tout en haut, en Galilée. Il quitte cette région pour aller au sud. Non pas pour prendre des vacances sur la côte d'Azur, mais il se déplace vers le sud pour aller en Judée. Et il ne choisit pas le chemin le plus direct. Il passerait par la Samarie. Il fait le tour, il contourne la Samarie et il passe de l'autre côté du Jourdain, nous dit le texte, sur la rive orientale la rive est du fleuve. Et en passant de ce côté-là du fleuve, il passe par le territoire de Péret. Et sur le territoire de Péret, donc à l'est, règne Hérode Antipas. Et Hérode Antipas, c'est le tétrarque, le gouverneur, si on veut, qui règne sur cette région, avec qui Jean-Baptiste a eu une altercation. Quatre chapitres plus tôt, là on est en Marc 10, et quatre chapitres plus tôt, Marc l'évangéliste nous raconte cette histoire de l'altercation entre Jean-Baptiste et Hérode. Parce que Hérode avait divorcé avec sa femme et avait épousé sa belle-sœur et ceux du vivant de son frère. Et Jean-Baptiste avait pris position en lui disant « Mais il ne t'est pas permis de prendre pour femme l'épouse de ton frère » Marc 6, verset 18. Et Hérode, de ce fait, l'avait fait mettre en prison parce qu'il était vexé. Et c'est sa nouvelle femme, Hérodiade, qui, folle de rage, avait manœuvré pour finalement le faire décapiter. Jean-Baptiste a travaillé, œuvré en tant que prophète dans cette région de Péret. Et il est mort en martyr à cause de sa prise de position sur une affaire de mœurs à propos du chef d'État, on pourrait dire, du gouverneur, du tétrarque de l'époque et de cette région. Mort en martyr suite à une histoire de séparation et de remariage. Et c'est précisément à cet endroit-là, à l'est, que les pharisiens viennent rencontrer Jésus sur ce territoire et sur cette question précise. Et ils viennent voir Jésus, verset 2. Les pharisiens abordèrent Jésus et pour lui tendre un piège, ils lui posent une question. Ils viennent précisément avec cette question et sur ce terrain-là, ce territoire-là, voir Jésus. Parce qu'ils veulent la mort de Jésus. Depuis déjà Marc chapitre 3, plusieurs chapitres encore en amont, ils n'ont de cesse que de vouloir coincer, planter, tuer Jésus. Parce qu'en Marc chapitre 3, Jésus guérit un homme qui a la main paralysée le jour du sabbat. Et les pharisiens sont excédés de cela. Et ils manœuvrent sans cesse pour pouvoir le coincer et le tuer. Vous sentez le plan machiavélique là, des pharisiens, et ils instrumentalisent souvent la loi, ils l'attendent pour essayer de le coincer. Donc, cette question, ce n'est pas juste une question théologique de personnes qui se posent des questions sincères par rapport à la loi, ce n'est pas juste des hommes et des femmes qui se posent des questions pratiques sur leur vie. Ils viennent avec une question, et cette question est une tentative de meurtre avec préméditation. C'est un piège. Pourquoi un piège ? Eh bien, parce qu'ils savent très bien qu'il y a débat sur cette question du divorce à l'époque concernant parmi les juifs. Et cette question peut troubler l'ordre public, mettre le bazar. Parmi les juifs, il y avait deux écoles sur cette question concernant les motifs de divorce. Il y avait l'école de Shammai qui disait qu'il était possible de divorcer uniquement en cas d'adultère, et il y avait l'école de Hillel, qui était considéré comme le plus grand rabbin juif, qui disait qu'on pouvait divorcer pour n'importe quel motif. Et il y a même un commentateur, Johnson, qui dit que Hillel avait précisé que même de laisser trop cuire le pain était un motif suffisant. Donc, débat parmi les juifs sur cette question du divorce et du motif de divorce, de la même manière qu'à l'époque, il y avait débat entre les sadducéens et les pharisiens sur la question, si vous vous souvenez, de la résurrection. Et ce genre de questions, notamment entre les sadducéens et les pharisiens concernant la résurrection, avait entraîné des émeutes. Et c'est ce qui peut se passer. Et les pharisiens, quand ils viennent sur ce sujet-là, c'est ce qu'ils espèrent, qu'il puisse y avoir des troubles. Si cette question fait polémique dans la région de Péret, et que cette question qu'il pose à Jésus en arrive finalement aux oreilles de Hérode, Antipas, le tétrarque qui règne sur cette région et qui prend ces brouhahs et ces questions comme une attaque personnelle de la part de Jésus à son propos, c'en est fait de lui. Jean-Baptiste, maintenant Jésus. Les pharisiens viennent de manière machiavélique en tant que conspirateurs. On peut se souvenir que les juifs de la province d'Asie, c'est Paul, finalement il va être arrêté. Paul, quand il va être envoyé à Rome, il est arrêté pour des accusations de blasphème et de profanation. vous lis, des Juifs de la province d'Asie virent Paul dans la cour du temple. Ils ameutèrent toute la foule et se jetèrent sur lui en criant « Israélite, au secours ! Voilà celui qui ne cesse de prêcher partout et à tout le monde, contre notre peuple, contre la loi de Moïse et contre ce temple. » Ils en parlent comme un blasphémateur, arrêté pour blasphème. Jésus lui-même, il va être arrêté par le Sanhédrin avec des accusations blasphèmes. Le grand prêtre prit la parole et lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème, qu'en pensez-vous ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Bim, en 30 secondes c'était réglé. Prétexter le délit de blasphème, dans certains pays actuellement c'est monnaie courante, et c'était déjà le cas, et c'était dangereux. Et Jésus est en danger de mort à ce moment-là, avec cette question. C'est pas juste une question innocente, c'est une question de piège avec un risque vital. La question du divorce est une question délicate, à l'époque déjà, et d'autant plus, et encore maintenant. Et en la traitant ce matin, nous souhaitons avoir toute la sensibilité nécessaire pour les personnes qui ont été impactées de loin ou de près par le divorce. Et surtout, en fait, nous laisser émerveiller par le Dieu de grâce, le désir habiter dans ta maison, dans ton temple, pour contempler ta beauté. En plus, se laisser émerveiller par le Dieu de grâce, créateur de l'amour, parce qu'il est amour, créateur du couple, du mariage, et qui est un Dieu bon et extraordinaire. Danger de mort, Jésus et la loi. Les pharisiens viennent avec une question légale. Verset 2, les pharisiens l'abordèrent pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent, c'est quoi la question? Est-ce qu'il est permis à un homme de divorcer avec sa femme? Ils viennent avec une question légale. Est-ce qu'on a le droit? Si vous avez la version Summer, c'est ce qu'elle évoque. A-t-on le droit? Et cette question est aussi une question piège, parce qu'il ne précise pas la nature du droit auquel ils font référence. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de manière civile? Est-ce qu'on a le droit de manière morale? Est-ce qu'on a le droit de manière religieuse? La loi de l'Ancien Testament étant constituée de différents types de lois, des lois civiles. Si tu empruntes le bœuf de ton voisin et que tu le lui rends boiteux, tu devras lui payer une compensation de la moitié de sa valeur. Pardon. Loi civile. J'aime le fait d'avoir cabossé la voiture. Frère, en Christ, que j'ai emprunté samedi pour aller à mariage. Loi civile. Bon, ça c'était l'Ancien Testament. Loi morale. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne voleras pas. Les 10 commandements et les 20. Des lois civiles, des lois morales, des lois religieuses, les rites, les sacrifices. Tous les printemps, vous vous réunirez. Loi. Et vous sacrifierez. Loi religieuse, rite et sacrifice. Et les pharisiens viennent avec une question d'ordre légal, sans préciser de quel type, et ils veulent pousser Jésus à se positionner face à la loi pour pouvoir tenter de le prendre à défaut. Il peut contredire la loi en effet de lui, et Jésus va leur montrer qu'il comprend parfaitement la loi et qu'il enseigne parfaitement la loi. La loi du divorce, justement, versets 3 à 5, est d'abord l'esprit de la loi. A-t-on le droit de divorcer? C'est leur question qu'ils viennent, c'est la question avec laquelle ils viennent voir Jésus, et Jésus leur retourne la question. Il leur demande ce qu'a prescrit Moïse, verset 3. Il leur répondit, dit Moïse, que dit la loi? Que vous a prescrit Moïse? Et il pousse les pharisiens, il prend les devants, du coup Jésus, il pousse les pharisiens à abattre leur carte. Parce que leur argument choc aux pharisiens, c'est qu'ils ont un argument scripturaire, légal, un texte. Ils viennent avec la Bible et un monument, ils viennent avec Moïse. Moïse nous a dit. C'est un argument choc. Moïse nous a permis. Mais leur interprétation de la loi de Moïse, c'était que Moïse nous avait permis de divorcer juste à la simple condition qu'on donne une lettre de divorce, une lettre de répudiation. Et ça suffisait. Donc, La version Sommer dit « Moïse a permis de divorcer d'avec sa femme à condition de lui donner un certificat de divorce. » Et leur interprétation, du coup, facilitait le divorce. Et pour eux, peu importe le motif, tant qu'il y avait cette lettre. Les pharisiens citent en fait Deutéronome 24, verset 1. C'est le seul texte de la loi mosaïque qui mentionne le divorce. Et cette règle avait été donnée pour encadrer la pratique du divorce et pas pour l'autoriser. C'était une règle civile qui permettait une clarification des situations de couple divorcé, d'une pratique qui se faisait. Donc c'était pas un commandement moral ni même une autorisation, mais un simple cadrage législatif d'une pratique civile existante. D'ailleurs, en Matthieu 19, c'est le texte parallèle, là on est en Marc 10, et en Matthieu 19, même histoire, les pharisiens disent « Moïse nous a permis !» Et Jésus les reprend en disant, ils disent « Moïse a commandé !» Et Jésus les reprend en précisant que Moïse a permis. Donc, Deutéronome 24, c'est une règle civile et pas une loi morale, et la loi morale de l'alliance du mariage prévalait, était plus important, pesait plus que la règle civile du divorce, un petit peu comme une loi française pèse plus lourd et a plus de poids qu'une circulaire, même qu'un décret. La loi française, une loi qui passe au BO, pèse plus lourd qu'une simple circulaire. De plus, cette règle de l'Ancien Testament, elle cherchait à limiter les effets du divorce pour éviter un mariage comme ça, sur un coup de tête, pour une pizza ratée, cramée, le soir de Coupe d'Europe, alors qu'on a perdu. Ça cherchait à limiter, et non pas à favoriser. Ça cherchait à limiter la liberté illimitée du conjoint, et souvent celle du mari. Donc une règle de protection et de clarification de la situation, et non pas d'incitation, c'est un petit peu, si on peut trouver un parallèle, ça ressemble un peu à la manière dont les Pays-Bas gèrent la question du cannabis en permettant sa consommation et son achat dans les coffee shops. Non pas pour l'autoriser, c'est pas légalisé et autorisé aux Pays-Bas, mais ils tolèrent et ils l'encadrent. Ils encadrent sa diffusion et sa consommation dans ces endroits-là. L'infirmier, je ne suis pas pour les addictions, mais voilà comment est-ce qu'il le gère. Pour réguler et limiter finalement la consommation. Pourquoi Dieu voulait-il interdire et limiter le divorce? Notamment pour ses effets. Tout conjoint victime du divorce le dira. Le divorce est une souffrance. Et parfois les difficultés de couple qu'on peut avoir dans nos couples et dans nos situations maritales sont des vraies souffrances profondes. Mais le divorce est aussi une douleur, est aussi une souffrance. Parfois même plonge dans des souffrances parfois pires. Question posée à une femme divorcée, que conseilleriez-vous à des couples autour de vous? Les jeunes couples, elle dit qu'ils fassent tout leur possible pour éviter le divorce, tout. Dans le divorce, la souffrance du conjoint qui est délaissé particulièrement est parfois plus profonde encore que le veuvage. Perdre son conjoint, c'est douloureux. Il y a une absence, on n'est plus là, on pleure, c'est dur. Le divorce, on va pleurer l'absence, mais il y a en plus une désunion, des questionnements, une remise en question qu'il faut aussi gérer. Donc on ne peut pas penser que, parce que la loi facilite en France le divorce maintenant, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais c'est un fait, on ne peut pas penser que du coup le divorce est bien, c'est pas vrai, ça reste une douleur, un déchirement. Je me rappelle d'une vidéo qui parlait du couple, où il montrait des cartes à jouer qui étaient finalement collées ensemble. Et la séparation, ça déchire. Toujours. Et ça fait mal. Et parfois, ça amène même les gens à ne plus croire à la beauté et à la réalité du mariage. Je pense à Stéphanie, une agent d'accueil dans un collège dans lequel j'ai travaillé. Une cinquantaine, peut-être, bien passé. Très sympa, très accueillante, bien à son poste en tant qu'agent d'accueil. Et elle appelait tous les gars ou les hommes mon chéri. Super, jovial. Ça va mon chéri, tu vas bien aujourd'hui, merci beaucoup, oh t'es mignon. Et à chaque fois qu'elle disait ça, moi je mettais ma femme dans le coup. Je disais,
Ouais, je sais, ma femme, c'est ce qu'elle dirait effectivement aussi.
Jusqu'au jour où elle pète un plomb. Et Stéphanie, elle s'énerve, elle dit « Arrête de parler de ta femme tout le temps !» Et je lui ai expliqué que je dis « Mais écoute, tu m'appelles mon chéri, tatata, machin, et c'est ma femme qui doit m'appeler comme ça. » Et on a commencé à parler mariage, et elle a commencé en fait à donner son témoignage par rapport à la question du mariage, au fait que ses parents étaient divorcés, et qu'elle avait mal vécu cela, et que c'était une douleur, et que pour elle c'était un mariage fini, quoi, niet, et que son compagnon de toujours était venu il y a 30 ans en arrière avec une bague pour la demander en mariage. Il a dit, si tu me veux, ce sera sans mariage, jamais. Il est reparti, et il est revenu, ben, sans mariage. Et ils sont ensemble, mais elle ne croit plus au mariage, c'est fini. J'en ai bavé jusque-là, c'est mort, quoi. Et on peut comprendre ça. Le divorce fait mal, et complique les relations familiales, notamment lorsqu'il y a la garde des enfants à assurer, peut-être encore pendant 15 ans. Et le mariage fait mal aussi, même économiquement, statistiquement, c'est prouvé que le divorce fait mal. On se sépare et on repart de plus bas pour tenter de reconstruire. Quand j'étais infirmier scolaire, j'avais pas mal d'élèves qui étaient enfants de parents séparés, divorcés ou pas, mais parents séparés, et qui vivent les conséquences de cette séparation, la garde alternée. Waouh, hyper compliqué la garde alternée. La meilleure solution dans cette situation dramatique de la séparation que j'ai vue, la meilleure option mise en œuvre par des parents, c'était d'avoir trois logements. Le logement de la mère, le logement du père, et puis le logement où on reçoit les enfants. Économiquement, il faut pouvoir les financer. On s'appauvrit, mais c'était une sage solution trouvée dans une situation de divorce qui reste douloureuse et dramatique même. Vous connaissez peut-être la mauvaise blague. Quelle est la Barbie, la poupée Barbie la plus chère? Bah, c'est la Barbie divorcée, parce que quand tu achètes la Barbie divorcée, il faut aussi acheter la voiture de Ken, la maison de Ken, la piscine de Ken. Ça coûte c'est la plus chère, la Barbie divorcée. Mauvaise blague. Mais statistiquement, économiquement, c'est montré et démontré que le mariage, le divorce, appauvrit économiquement, tu repars de plus loin. Alors si dans un quotidien marital parfois difficile et sombre, le divorce ça peut sembler être une issue favorable, il faut se rappeler que ça reste toujours une solution douloureuse et éprouvante, et parfois même encore plus douloureuse et éprouvante que les efforts qu'il faudrait consentir pour tenter de sauver le mariage. Dans les deux cas, il faut faire des efforts et faire quelque chose et dépasser des obstacles. Les formes de divorce. C'est quoi le divorce ? Eh bien, c'est la séparation légale d'un couple qui était marié, séparation légale et durable. Mais il faut préciser qu'il y a des formes de divorce parfois qui cachent leur nom. Il y a des couples parfois qui ne s'aiment plus, qui ne se parlent plus et qui ne vivent plus rien ensemble. Parfois qui n'ont plus de rapport sexuel pendant des années ou depuis des années. Qui vivent parfois sous le même toit, mais qui ne partagent plus rien ensemble. Légalement, ils ne sont pas divorcés, certes, mais ils sont... Enfin, ils ne vivent pas le mariage. Ils n'expérimentent plus l'union du mariage, mais par contre, ils expriment et expérimentent la douleur, la désunion, et c'est triste. C'est des formes de divorce qui cachent leur nom. C'est un jeune chrétien qui nous a appelé il y a quelques temps pour nous informer de la bonne nouvelle. Ça y est, il est en couple, génial! Et il commence à nous parler de sa chérie, etc., à la décrire, ses études, son travail, sa situation, sa famille, ses parents. Séparés, mais pas divorcés, précise-t-il. Ils sont séparés, mais pas divorcés. C'est un peu comme si c'était mieux. J'ai connu une famille chrétienne où toute la famille vivait sous le même toit. Plusieurs enfants, famille nombreuse, et les parents séparés. Il y avait un étage pour le père et un étage pour la mère. Pas divorcés. Contact chrétien. Engagé. On a connu une église où un des anciens ne s'asseyait plus à côté de sa femme. Et leur couple était en désunion et en souffrance. C'était criant. La femme, elle critiquait tout le temps son mari en public. Lui, il était dur avec sa femme. Et un jour, j'ai abordé la question avec lui. Il a dit, mais c'est comme ça depuis 30 ans, ça ne changera jamais. 30 ans de souffrance de couple. Waouh, c'est triste, c'est vraiment triste, quoi. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'en tant que communauté d'église, On n'est pas plus interpeller ce frère en Christ qu'on veut aimer et qui souffre, ça se voit. Mais se dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon frère? On n'a pas le droit de laisser des gens qui sont en galère. Ils vivent dans la rue ou ils vivent dans une situation de couple en souffrance, mais aimons-nous les uns les autres. Des fois, il faut prendre son courage à deux mains et puis aller aimer notre frère en action, quoi. Et en plus, c'est possible d'inverser la vapeur. En Normandie, on a connu Victor et Pauline qui s'étaient séparés, divorcés, il y a des années en arrière. Et qui, après leur conversion, se sont mariés. Ils sont encore ensemble. Ils ont dit bien passé, je pense. Et ils sont pétillants et amoureux, c'est beau à voir. Toutes ces histoires doivent nous rappeler ces formes de divorce pour peut-être nous qui sommes mariés, peut-être de futurs mariés. Ça doit nous aider, ça doit nous encourager à ne pas avoir un rapport condescendant, orgueilleux, méprisant envers les personnes qui vivent le divorce de manière directe ou indirecte. Avoir par contre, pas un regard d'orgueil et de mépris envers eux, mais de la compassion. Ils vivent une galère. Et de la compassion pour eux. Et ça doit nous interpeller sur notre propre situation. Je ne suis pas divorcé, on n'est peut-être pas divorcé, mais ok, mais comment est notre couple, quoi? Où est-ce qu'on en est? Et ce n'est pas juste une situation qu'il faut légalement, administrativement éviter, mais c'est... On ne doit pas vivre comme des divorcés. Vivons le mariage. Où est-ce qu'on en est dans notre relation de couple? Est-ce qu'on vit l'union et l'amour ou la désunion et la colère au quotidien? Si notre couple est en bonne santé, alléluia, bénisse Dieu pour ça, merci Seigneur. Et il faut qu'on le travaille, hein, il y aura toujours du boulot à faire. Soyons remplis de compassion pour les personnes qui vivent le divorce et qui sont peut-être d'ailleurs en grande fragilité. Le plan de Dieu concernant ce thème du couple, versets 6 à 8, c'est d'abord la supériorité, on devrait même plutôt dire la prééminence de Christ. Prééminence parce que, un, il est supérieur, mais deux, il est aussi avant, prééminence de Christ sur Moïse. Pour se justifier, les pharisiens, on l'a dit, citent Deutéronome 24. Moïse nous a permis. Et Jésus répond, Moïse a permis, mais au commencement, Moïse vous a permis d'écrire une lettre de divorce, verset 6, mais au commencement de la création. Jésus, il va citer quelque chose qui est avant Moïse et qui a donc plus de poids. Et d'ailleurs, Jésus lui-même était là, au commencement. Il cite un texte où il est acteur de cette création. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est Christ que Jean, au chapitre 1, nous révèle. Elle était au commencement avec Dieu, cette parole. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. La parole faite chair, cette parole créatrice de Dieu, c'est Jésus-Christ, et il est là, au commencement, lorsque toutes choses sont créées, avant Moïse, du coup. Vous voyez l'idée? Et ça ressemble à Bernard Kouchner. Parce que cet homme était... il était ministre, alors il était médecin, cofondateur de Médecins Sans Frontières et de Médecins du Monde. Il était ministre des Affaires étrangères sous Fillon. Et lui, il avait un argument choc dans son ministère pour fermer le clapet à ses opposants en disant « Mais monsieur, moi j'étais là sur le champ de bataille, sur le théâtre des opérations militaires et humanitaires. J'y étais, je l'ai vu de mes propres yeux. Et vous ?» Et Jésus, là, il dit, vous citez Moïse, « Moi j'étais au commencement de la création. » Il cite un texte avant Moïse, une situation où lui, il était... co-créateur, co-créateur. Et dans cette situation, au commencement de toute chose, Jésus crée, Dieu crée des choses parfaites avant que le mal n'entre dans ce monde, avant donc que le divorce n'entre et affecte les relations homme-femme. Jésus est en train de dire que le mariage, c'est une institution divine, créationnelle. Ça, il renvoie à la création du monde. Le mariage, ce n'est pas une institution chrétienne, de la chrétienté, des chrétiens inventés. Ce n'est pas une institution humaine, ce n'est pas une institution culturelle ou sociale. C'est une institution créationnelle du Dieu créateur. Qui qui est donc une bénédiction destinée à tous, ça veut dire autant pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. Et ça fait partie du coup de la grâce commune offerte à tous. Institution créationnelle. Bénédiction pour tous. Le mariage, après la supériorité de Christ, le mariage biblique, en se reportant aux origines du monde, Jésus rappelle le plan originel de Dieu pour le couple. L'unique plan A, c'est le mariage, verset 6. Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. D'ailleurs, au commencement de toute chose, Dieu crée en séparant, en différenciant la lumière d'avec les ténèbres, les eaux du dessous d'avec les eaux du dessus, le jour, la nuit, l'homme, femme, l'astre, les astres du jour, les astres de la nuit, mâle, femelle. Et il indique donc par là aussi que la sexualité est bonne et dans son plan prévu de toute éternité. Dieu peut voir Adam et Ève nus et dire, en Genèse 1, 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Dieu crée un couple différencié et sexué et il les unit dans le mariage, verset 6 à 8. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc le mariage biblique, c'est quoi? C'est une union de deux êtres qui sont différenciés. Et c'est d'ailleurs pas une fusion. Parfois, on parle de notre conjoint comme... Bon, c'est sympa hein, comme expression, mais on parle de notre conjoint comme notre moitié, notre meilleure moitié. C'est sympa quand les maris disent ça. Mais en fait, c'est pas une fusion. Et les célibataires, parmi nous, c'est pas des demi-personnes qui auraient besoin d'être complétées. On n'est pas un demi ou zéro, enfin 0,5. 0,5 plus 0,5. Les époux sont des individus à part entière qui font union. Et ils ne font plus qu'un par alliance, un peu comme si 1 fois 1 égale 1. Okay? Et le mariage biblique, c'est une alliance. J'ai beaucoup aimé la préparation de notre mariage avec Sarah et aussi celui de mon beau-frère il n'y a pas longtemps. La déco, le faire-part, la liste des invités, le menu, le plan de table, plein de belles choses qu'il faut gérer. C'est parfois beaucoup d'organisation, beaucoup de finances aussi. C'est un peu cher parfois. Mais c'est tellement beau, et je trouve que cette manière culturelle de célébrer le mariage nous permet de bien intégrer ce qui se passe. C'est une sorte de rite de passage public, festif, où on intègre le sens du mariage, et c'est utile. En même temps, il faut se rappeler que le sens du mariage, c'est pas la robe blanche, c'est pas le cortège, c'est pas le baiser lors de la cérémonie, c'est pas ça le cœur du mariage. Le cœur du mariage, c'est l'alliance, c'est le contrat, si on veut, c'est l'alliance d'amour, un engagement à un amour agapé, un amour volontaire, un amour qui se donne. Parce que l'amour, ça se donne, ça se prend pas. C'est magnifique d'ailleurs lorsque dans le mariage, l'amour et même la sexualité, c'est un don de soi mutuel. Là, ça marche bien. Je pense à Eva Junior, deux jeunes du collège où j'ai travaillé, où Eva, elle était cramée, amoureuse de Junior, un beau garçon, un très bon joueur de foot qui a été sélectionné au SCO d'Angers avec des sponsors par Nike, etc. Et Eva, elle courait après Junior, mais elle le harcelait de textos, de messages, de petits regards en classe. Et Junior lui a dit 15 fois, ça ne m'intéresse pas, arrête, laisse-moi tranquille. Et Junior vient voir, il dit, monsieur, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment lui dire. J'ai discuté avec Junior, j'ai discuté avec Eva, et il essayait de faire comprendre à Eva, avec Junior, que l'amour, ça se donne, ça ne se prend pas. Tu ne peux pas forcer Junior, tu ne peux pas lui arracher son amour. Tu lui proposes, tu lui donnes, et lui l'accepte pas. Et inversement, dans le mariage et la sexualité, c'est la même chose. Je ne peux pas prendre, je n'ai pas le droit de prendre la sexualité de l'autre. L'expression « je te prends », c'est horrible. Je n'ai pas le droit de prendre l'amour, de voler. Je donne, c'est un amour. Et du partage, du don réciproque. Le don de soi, d'ailleurs, dans le mariage, il n'est pas triste, il n'est pas austère. Il peut être beau, romantique, érotique, passionné, amusant. Mais le fondement de cette relation maritale qui fonctionne bien, c'est l'alliance d'amour agapé réciproque. Je ne sais pas si vous avez une alliance, vous, à votre doigt, mais les couples mariés, si vous en avez une, je vous encourage à la porter. Elle dit quelque chose, cette alliance. La mine, elle est déformée parce que j'ai fait des travaux et mon alliance a sauvé mon doigt. Je me suis pris un bloc de roche. Enfin, c'est normal. On faisait des gros travaux et je me suis pris un bloc de roche et voilà, grâce de Dieu, j'ai un peu de mal à m'enlever maintenant. Mais cette alliance, cet anneau, cette bague s'appelle alliance et ça porte un sens profond et c'est pertinent. Le mariage biblique, c'est quoi? C'est une alliance. Je termine avec notre dernier point avant qu'on conclue, Christ et le mariage, verset 9. Verset 9, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni, c'est Jésus qui parle. Le drame du mariage chrétien, c'est que justement, le drame du divorce entre chrétiens, vous entendez, le drame là, c'est que cette situation porte atteinte à l'alliance, justement, à la parole qui a été donnée. Je fais alliance, je m'unis à toi pour la vie. Et lorsque finalement un couple chrétien se sépare, ça porte atteinte au sens profond du mariage. Et c'est une atteinte à l'œuvre de Dieu. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni, celui qui est acteur principal du mariage, ultimement qui unit les conjoints, c'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui crée cette union des deux, et c'est lui qui interdit à l'homme et à l'être humain. Ici, à l'anthropos, le verset 9, le terme, c'est anthropos, et il dit que l'anthropos, que l'être humain, que ma création, que ma créature ne sépare donc pas ce que moi j'ai fait et ce que j'ai uni. Le mariage est une institution de Dieu et cette institution nous parle du Dieu créateur lui-même. Le principe d'alliance du mariage parle du Dieu d'alliance. Et si vous connaissez John Piper, ce théologien, il nous dit que le mariage est une illustration de la relation entre Christ et l'Église, une illustration de ça, et pas l'inverse. Souvent, on pense l'inverse, Éphésiens 5, comme si Paul, en Éphésiens 5, il utilise tiens, l'Église et Christ comme une illustration pour nous faire comprendre le mariage, mais en fait, c'est l'inverse. Dieu crée le mariage pour qu'on comprenne la réalité spirituelle qu'il a créée entre Christ et l'Église, son épouse. Et donc, lorsqu'il y a divorce entre chrétiens, on dit quelque chose de faux à propos du Dieu d'alliance lui-même. Qui veut l'Église, qui veut le couple, et qui est un Dieu fidèle, qui jamais ne divorcera, jamais Christ n'abandonnera son épouse, même lorsque nous sommes infidèles. Un frère l'a exprimé dans sa prière ce matin. Ne disons donc pas de mensonges sur Dieu et sur l'Évangile dans notre vie de couple. Disons la vérité sur l'Évangile et vivons, du coup, l'Évangile dans notre mariage. Et la bonne nouvelle, c'est que celui qui unit les couples, celui qui nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, celui qui nous dit d'aimer notre conjoint comme nous-mêmes, celui qui nous dit « tu aimeras ton conjoint comme toi-même », c'est celui qui s'offre à nous comme solution pour y arriver. Celui qui nous dit d'aimer même notre ennemi, donc peut-être même notre conjoint, lorsque c'est difficile, c'est celui qui est la solution pour pouvoir obéir à ses commandements. Celui qui a aimé l'Église au point de se donner pour elle, c'est celui qui est la solution pour pouvoir aimer notre conjoint, mari ou femme. Franchement, c'est too much. Jésus est la réponse. Au cœur de Pierre, parce que, au cœur de Pierre, mais aussi au cœur de Pierre. Jésus dit, Moïse vous a permis, il vous a donné cette règle civile à cause de votre cœur de pierre. Et si le cœur de pierre humain, c'est le problème numéro un du divorce, la solution c'est quoi? La solution c'est Jésus face à notre cœur de pierre. En Ézéchiel, Dieu nous dit, je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair, je mettrai ma loi dans vos cœurs. Et tout ça, ça va être réalisé grâce à Christ. La solution est en Jésus. Comment? Parce qu'il agit en nous. Il y en a devin. C'est moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Hébreux 13, 21. Que le Dieu de la paix vous rende capable. T'es pas capable? Ok. le Dieu de la paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Puisse-t-il le faire dans nos vies de couple. Jésus est la clé contre le divorce. C'est lui qui va nous aider à nous lever à 3h du matin lorsque bébé pleure. On n'a franchement pas envie d'y aller. On serait plutôt content dans un conjoint qui y aille. C'est lui qui va nous combler de sa présence dans notre vie et qui va nous aider à nous nourrir de son amour pour nous plutôt que de pomper l'autre. C'est lui qui va nous pousser à pardonner les offenses de notre conjoint lorsque vraiment il dépasse les corps et qu'il attaque et que c'est difficile. C'est lui qui nous motivera à être un leader positif qui sort de son canapé, qui pose sa télécommande et sa bière et ses chips et qui va servir sa famille et son conjoint, sa conjointe. Et dans le couple, dans la vie de couple, il y a de l'investissement, c'est difficile, c'est clair. L'apôtre Paul en parle en 1 Corinthiens 7 lorsqu'il parle du remariage et qu'il est en train d'expliquer que pour lui, il faudrait peut-être mieux que les veuves restent comme elles sont, mais bon, elles peuvent se marier, pas de problème, tant que c'est avec un chrétien, 1 Corinthiens 7, 29, je crois. Et il dit, dans le mariage, il y a des préoccupations, des soucis, des tiraillements. Il est crédit, c'est la vraie vie, c'est vrai. Et c'est pour ça aussi que Paul de Wandre dit, vous connaissez Paul de Wandre, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, il dit que le mariage, c'est comme un jardin. Et il faut s'en occuper de ce jardin, pas seulement au printemps. Il y a des fleurs, des fiançailles, c'est beau, la sexualité, ça marche bien, etc. Il dit, c'est un jardin, il faut s'en occuper toute l'année. Chacun disait, les conjoints sont comme dans deux barques, sur un lac, parfois agités par la vie. Et s'ils ne rament pas pour rester côte à côte, ils vont petit à petit se séparer. Et il faut travailler du coup notre mariage, constamment, avec Dieu et par la grâce de Dieu. Des clés qu'on se laisse, c'est celle-ci. L'époux bien-aimé, c'est la clé d'un mariage épanoui. Et lorsque nous travaillons activement notre couple avec Christ et par celui qui vit en nous et qui agit en nous, on travaille efficacement pour lutter contre le divorce qui nous guette. C'est une petite application et on s'arrête. Que faire si dans l'église quelqu'un nous dit « Ma femme m'a trompé 3 fois avec un jeune cadre de son travail ?» Que faire si quelqu'un nous dit « Mon mari est alcoolique et violent, j'ai peur de mourir tous les jours. » Vous savez qu'en France, il y a une femme qui est 3 jours qui meurt à cause des coups et des violences de son conjoint. Dans la nuit du 2 ou 3 janvier là, dernier, il y a un homme qui a fracassé sa femme et qui a été déféré devant le parquet de Lille. Les 3 jours en France. Qu'est-ce qu'on dit si quelqu'un nous dit, comme un père que j'ai connu dans un des collèges où je travaillais, ma femme est malade psychiatrique, et le quotidien c'est juste un enfer, j'en peux plus. Si quelqu'un nous dit, les rapports sexuels avec mon mari sont fades, parfois violents. Si quelqu'un nous dit, mon mari déprime, ça fait des années qu'il est apathique à la maison, l'homme qui fait rien, j'essaie de le stimuler, de l'aider à bouger, ça change pas. Quelqu'un nous dit, je suis en instance de divorce depuis 3 ans. Les enfants, le travail, le nouveau travail, la belle famille, je suis fatigué. Quelqu'un nous dit, je suis marié depuis 5 ans. Le divorce, ça m'a traversé de la tête. Quelqu'un nous dit, comme une responsable du groupe de jeunes, je suis attiré sexuellement par un collègue. Si quelqu'un nous dit, je pense au mariage, mais franchement, quand je vois tout ce que je vois, est-ce que ça vaut le coup? Je me pose des questions. Et si vous êtes dans une de ces situations, je vais vous encourager à plusieurs choses. Nous encourager à plusieurs choses. Premièrement, placez Christ comme toute votre valeur et l'essentiel dans votre vie. Celui qui vous nourrit, celui qui est la source de votre joie la plus totale. J'aimerais vous encourager à relire l'histoire de Léa. En Genèse 27, qui faisait des enfants pour réussir à faire en sorte que son mari l'aime. Elle n'était pas aimée par son mari. Et elle cherche à être aimée par son mari. Et elle dépérissait de l'absence d'amour de son mari pour elle. Jusqu'à ce qu'elle découvre L'amour de l'Éternel pour elle, Genèse 29. J'aimerais vous encourager à redécouvrir Dieu comme un Père céleste qui nous aime et qui nous veut proche de lui, réconcilié avec lui. Fils comme un époux fidèle, qui se donne. C'est un bien meilleur époux, Jésus, que moi j'ai tant de l'être, même avec son aide pour mon épouse. J'aimerais vous encourager à relire l'Évangile. Relisez-le cette semaine en boucle et cherchez comment Jésus aime son épouse. C'est un axe de lecture. Les frères, aimons nos épouses comme Christ a aimé l'Église. Ça coûte. Ouais, ça coûte. C'est bien simple. J'aimerais vous encourager à parler à vos anciens si vous êtes en situation de couple difficile, tendue. Ayez le courage. La honte et le sentiment de honte ne vous immobilisent pas. Ayez le courage d'exposer votre situation et de demander de l'aide pour qu'il vous accompagne. Priez avec un frère dans l'église ou une sœur. Exposez la situation aussi pour pouvoir prier ensemble et tenter de pouvoir lutter contre les tentations qui peuvent être là et qui nous tiraillent. Je l'ai fait samedi matin. Un rêve bizarre. Un rêve bizarre. J'envoie un texto à un pote et lui dit, il faut que je t'explique un truc. Je lui fais un rapide topo. Je mets mon épouse en copie dans le texto. Transparence, c'est plutôt clair. Et c'est garanti. On va s'appeler la semaine prochaine. Et on va pas faire étalage, des trucs bizarres. Mais on va prier pour ça et dire, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut pas. Seigneur, au secours. Demandez de l'aide. C'est pas tout seul. Si votre couple est en souffrance, allez voir un conseiller conjugal. Quelques rendez-vous peuvent être vraiment salutaires. Et c'est peut-être pas trop tard. Allez-y, maintenant, faites-le. Go ! Vous n'êtes pas concerné, conseillez-le aux autres. Il faut qu'on s'occupe des dossiers, on doit les ouvrir et les attaquer. Par la grâce de Dieu, ça change. Croyons-le, il s'occupe des choses. Si vous êtes face à une situation extrême qui nécessite de faire appel à l'aide sociale, à la justice, à la police, vous voyez votre sœur avec un maillot bord noir, ou votre collègue avec un maillot bord noir. Réagissez, si ça vous concerne, réagissez, n'attendez pas. Un jour, c'est trop tard. Faites-le. Du contraire, vous êtes marié et que ça se passe bien. Alléluia et gloire à Dieu et bénissez Dieu pour ça. Et rayonnez de l'Évangile autour de vous. Je pense à un frère que vous connaissez, Franck. Il m'a dit, aime ta belle pour ton bonheur et pour faire son bonheur, et pour démontrer à tes enfants la plus belle démonstration et expression de l'Évangile et de la vérité de l'Évangile. Votre couple, ça marche bien. Alléluia, et profitez-en. Je vous bénis pour cela. Si vous êtes célibataire, je vous encourage, croyez au mariage, à la beauté du mariage et de l'union. Et faites les choses dans l'ordre. Faites les choses dans l'ordre. Que votre union physique, sexuelle soit l'expression de votre union maritale. Faites les choses dans l'ordre, vous en serez que plus heureux et bénis. Si vous êtes loupé, allez à la croix. C'est simple. Elle est là. Allez à la croix et saisissez la grâce en Jésus. Quelle que soit notre situation, que le Seigneur Jésus nous aide à trouver en lui la satisfaction et les ressources dont nous avons besoin, que l'époux, Christ, que l'époux bien-aimé, nous aide à trouver en lui la satisfaction et les ressources dont nous avons besoin pour un mariage épanoui, parce que la clé est en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse votre assemblée, votre église, et donne de pouvoir rayonner de l'Église.